L'invité de la rédaction avec Charlie Pless sur Radio Alpa.
La loi sur la fin de vie revient sur le devant de la scène. Le projet de loi sera examiné par l'Assemblée le 12 mai et les débats promettent d'être houleux. D'abord parce qu'il s'agit en effet d'un sujet clivant entre ceux qui, au nom de la dignité humaine, défendent le maintien de la vie à tout prix et ceux qui, au nom de cette même dignité, préfèrent le choix de disposer de sa vie et de sa mort. Mais un récent élément complique encore le débat. Vendredi 11 avril, la Commission des affaires sociales a adopté un amendement déposé par la députée LFI Élise Le Boucher, députée de la 4e circonscription de la Sarthe. Cet amendement permet aux malades de choisir entre auto-administration de la substance létale et administration par un médecin ou un infirmier. Alors pourquoi cet amendement fait-il autant réagir? Quelle est son implication concrète? Pour éclaircir la question, nous recevons en premier lieu Élise Le Boucher. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc députée LFI de la 4e circonscription de la Sarthe. Vous êtes co-rapporteur du projet de loi sur la fin de vie et c'est vous qui avez déposé l'amendement en question en commission des affaires sociales. Avec nous à notre micro également Rémi Marchand, délégué départemental de l'ADMD, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Bonjour.
Bonjour.
Alors j'aimerais qu'on revienne en premier lieu, sur l'élément phare de cet amendement et que j'évoquais en introduction, la liberté pour le malade de choisir entre auto-administration de la substance létale et administration par un médecin ou par un infirmier. Qu'est-ce que ça change en fait concrètement par rapport à la proposition de loi soumise en commission?
Vous l'avez dit vous-même dans la façon dont vous la présentez, c'est la liberté de la personne malade de choisir et c'est bien ce qui est au cœur de ce texte sur l'aide à mourir, c'est le choix du patient, de la personne qu'il sollicite et du coup en toute cohérence, nous avons estimé, parce que je suis la première signataire mais portée par mon groupe et adoptée par les autres commissaires de la commission, que cette liberté, ce choix devait se faire aussi jusqu'à du coup ce fameux geste ultime.
Et alors pourquoi est-ce que vous teniez en fait absolument à affirmer cette égalité de choix pour le malade? Qu'est-ce que...
De répondre au plus près de ce qui représente, ce qui est au cœur de ce texte, qui est le choix de la personne et surtout de l'autodétermination de la personne. Et on estime que voilà, ce choix doit se faire jusqu'au bout. C'est la personne qui détermine qu'elle veut l'aide à mourir. Et donc pour moi, il me semblait quand même assez incohérent que la personne ne puisse pas décider jusqu'au bout de la modalité d'administration.
Et alors comment est-ce que cet amendement il a été reçu en commission des affaires sociales? Est-ce qu'il y a eu des débats? Qu'est-ce qui en est ressorti?
Alors oui, il y a eu des débats, ce qui est le sens de la commission et ce qui est très sain. Il faut des débats qui ont abouti du coup à l'adoption de l'amendement. Donc c'est que les députés présents étaient plutôt favorables à cet amendement parce qu'ils ont compris, je pense, que voilà, ça répondait du coup au cœur du texte, du choix de la personne et que ça n'élargissait pas les critères. Ça ne va pas augmenter le nombre de personnes qui vont avoir accès à l'aide à mourir et ça ne remet toujours pas en cause aussi la clause de conscience pour le soignant. Donc du coup, voilà, juste on permet de répondre au choix de la personne sans en plus élargir le texte. Donc on garde l'équilibre du texte et c'est ce qui était important.
Alors on va revenir sur ce que vous dites, sur le fait que ça n'élargit pas les conditions, que ça n'élargit pas
c'est
le nombre de gens.
C'est l'argument des opposants.
Exactement, on va y revenir sur ce point-là. Rémi Marchand, quelle est d'abord la position de l'ADMD sur cet amendement?
La position de l'ADMD, elle est très claire. On parle d'un droit de respecter la conscience de chacune et chacun. Il ne peut qu'aller dans le sens de l'amendement déposé par Élise Le Boucher. Il est très évident que lorsqu'on parle à l'ADMD d'une loi qui respecterait les consciences de chacune et chacun, c'est l'euthanasie et le suicide assisté. On ne parle pas d'exception d'euthanasie, mais on parle bien d'une loi où il figure ce libre choix pour chacune et chacun. Cette question également d'auto-administration de la substance ou que ce soit fait par un professionnel, eh bien, c'est de respecter ce que chacun et chacune souhaite. Mais au-delà du soin, au-delà de la volonté de chacune et chacun, il y a également la capacité physique à pouvoir faire les choses. Si jamais on a une maladie ou quelque chose qui nous arrive, eh bien, il faut que physiquement, on soit en capacité de pouvoir avaler une solution, appuyer sur une perfusion. Mais finalement, ce serait accélérer les choses. Moi, je pense à Agnès, une adhérente de l'ADMD, qui est partie en Suisse il y a un petit peu plus de 2 ans, qui disait finalement, la loi, peut-être qu'à un moment, je devrais me dire, moi, le stade auquel je me dis que j'ai atteint le moment auquel il faut que ça s'arrête, il faudra peut-être que je l'anticipe. Parce que si la loi fait en sorte que ce soit que moi qui puisse pratiquer l'acte, eh bien, ça a une limite. Et puis, il y a cette question de conscience où on respecte ce que chacun souhaite, sans rien enlever à personne. Et c'est vraiment le sujet même du droit de mourir dans la dignité dont on parle actuellement.
Alors le projet, on insiste sur une précision, pardon. En cas d'administration par un tiers, il doit s'agir d'un médecin ou d'un infirmier. Pourquoi on ne laisse pas la possibilité à un proche d'administrer le produit?
Alors, Monsieur le Président de la République, à un moment, avait évoqué cette possibilité éventuelle d'avoir un proche qui puisse accompagner les personnes. À la DMD, on s'est levé en disant, ben non, là, ce serait une bêtise. On parle bien d'un acte d'ultime soin. On parle d'un acte qui se passe dans un cadre médical. Et jusqu'au bout, il faut que ce soit le patient lui-même ou que ce soit des soignants qui, d'ailleurs, comme en Suisse ou en Belgique, je l'avais déjà dit sur Radio Alpa et je le rappelle, les soignants sont également accompagnés. On aura un temps de repos. Ils peuvent avoir une cellule psy avec qui travailler ensuite parce que ce n'est pas un acte de soin classique, c'est une évidence, mais c'est un acte finalement où, là, moi, je reparle d'Agnès, je peux parler également d'autres personnes avec qui j'étais en contact qui ont bénéficié de la loi à l'étranger ou des personnes qui attendent impatiemment et de plus en plus impatiemment qu'elle arrive en France. Finalement, c'est le plus beau cadeau qui peut arriver à un patient de se dire, d'avoir un soignant qui va se dire, bah, à un moment, j'ai enfin la possibilité d'arrêter mes souffrances et de partir le plus dignement possible parce que c'est ma volonté. La dignité, c'est pas l'euthanasie, c'est pas le suicide assisté. La dignité, c'est de respecter ce que les gens souhaitent. Moi, j'ai 32 ans, j'ai aucune idée de savoir ce que je souhaite. Peut-être que j'aurai envie qu'on fasse tout pour me garder le plus longtemps possible en vie. Par contre, je veux que ce soit respecté et que ce soit vraiment ma volonté. Peut-être que j'aurai envie de dire stop à un moment et là, je veux que ce soit ma volonté aussi.
Alors, le projet de loi sera examiné le 12 mai à l'Assemblée. C'est un texte qui divise et qui, rappelons-le, a été divisé. Le texte initial comprenait en effet la proposition de loi sur l'accompagnement en soins palliatifs et la proposition de loi sur l'aide à mourir. Le Premier ministre François Bayrou a choisi de diviser ce texte en deux. La partie sur les soins palliatifs sera examinée en premier le 12 mai, puis celle sur l'aide à mourir en second le 19 mai. Alors, Rémi Marchand, Alice Le Boucher, est-ce que vous pensez que cette division du texte, ça va le rendre plus difficile à faire voter par l'Assemblée?
En tout cas, c'est la volonté du Premier ministre. Il a été très clair sur le sujet. Lui-même n'est pas favorable du coup, à cette aide à mourir. Et donc, c'est une stratégie. Il pense qu'en faisant du coup deux textes, ça libère les députés qui n'étaient pas favorables du coup, d'un vote qui aurait été le même sur les soins palliatifs et l'aide à mourir. Donc c'est la stratégie. Après, on a réussi quand même à cadrer le fait qu'il y ait un vote le même jour, vote, ce qu'on appelle les votes solennels une fois que les débats ont eu lieu, que ce soit le même jour, ce qui fait qu'on ne peut pas voter le premier texte si on n'a pas été au bout des débats du second texte. Parce qu'on voit bien, du coup, l'enjeu quand il y a deux textes, la tentative de l'opposition, du coup, de faire de l'obstruction et de faire traîner les débats pour qu'on n'arrive pas au bout du texte. Mais s'ils font ça, on ne votera jamais sur celui sur les soins palliatifs, qui est extrêmement important. Nous, moi-même et avec mon groupe, on s'est aussi mobilisé sur ce texte-là.
Vous seriez prête à voter contre le texte sur les soins palliatifs
Non, c'est plutôt des députés qui sont opposés. Ils pourraient faire de l'obstruction et faire en sorte qu'on n'arrive pas au bout des débats sur le texte fin de vie pour qu'on n'ait jamais à le voter. Mais s'ils font ça, si on n'arrive pas au bout des débats, on ne pourra pas avoir au vote celui sur les soins palliatifs. Donc du coup, ça permet quand même de cadrer et de sécuriser, ce qui n'engage pas le vote final et de savoir s'il y aura un vote favorable à la fin de vie. Mais quand même, avec le Premier ministre et Olivier Falorni, qui est le rapporteur général, il y a un cadrage qui permet d'avoir un vote au moins sur le texte. Quoi.
Vous vouliez ajouter quelque chose, Rémi Marchand, ou pas forcément?
Oui, il est assez évident que nous, à la DMD, il y a eu une tentative également de la part de M. Bayrou. Alors, il a réussi à scinder le texte en deux, mais il a également tenté une nouvelle fois un report du texte. On serait arrivé, je crois, au mois d'octobre. Quelques mois avant des élections municipales, quelques mois également avant des élections présidentielles, on sait très bien quelle aurait été l'issue. À la fois pour les soins palliatifs, à la fois pour l'aide active à mourir, de se dire, ce sujet-là, bon, bah, il part plus tard et puis on le laisse un petit peu oublier. Le véritable danger, c'est d'avoir une loi, aujourd'hui, finalement sur les soins palliatifs. On peut avoir une loi pour renforcer des nouveaux droits, mais finalement pour les moyens financiers, pour mettre de la formation, pour rendre plus attractives ces professions de soins palliatifs. On n'a pas besoin de loi, on a besoin de moyens et de volonté. C'est quelque chose qui n'existe pas, ça fait plus de 40 ans à la DMD qu'on milite pour un accès universel aux soins palliatifs et pour l'aide active à mourir. Finalement, on n'a aucun président de la République qui aujourd'hui a réussi à mettre véritablement des moyens concrets pour renforcer les soins palliatifs, quand rappelons-le, en Sarthe, on n'a pas d'équipe fixe de soins palliatifs. On a des soignants avec des équipes mobiles qui font un travail formidable, qui est particulièrement bien reconnu, hein, qui est reconnu par les usagers de santé, qui n'est pas reconnu par le ministère de la Santé ou par le président de la République. Mais d'avoir une loi qui aujourd'hui ne repose pas sur ses deux jambes, parce qu'on parle d'une loi sur la fin de vie, en Suisse et en Belgique, il y a pas mal de personnes, enfin un certain nombre de personnes qui passent par une aide à qui va mourir, qui sont passées par des soins palliatifs. On ne peut pas opposer l'un à l'autre. Et finalement, avoir dans un premier temps ce texte, ce vote solennel sur les soins palliatifs, et dans un second temps, peut-être celui sur la fin de vie, parce qu'on ne sait pas ce qui sera l'issue. On sait très bien les manœuvres, par contre, qui sont des manœuvres totalement opposées aux principes de fraternité, de laïcité, de république qu'on attend d'une loi comme celle-ci. On comprend les manœuvres qui sont celles de M. Retailleau, de celles de M. Bayrou. Eh bien, nous, on attend d'avoir ce texte unique. On peut remercier les parlementaires, et je pense notamment à Élise Leboucher et aux 5 parlementaires de la Sarthe qui avaient également soutenu une reprise des débats sur la fin de vie, de se dire que, finalement, c'est grâce à l'ensemble de ces parlementaires qu'une fois de plus, le texte n'a pas été... les débats qui arrivent au mois de mai n'ont pas été reportés. Par contre, on sait que c'est très dangereux, et on sait très bien que, encore une fois, sur le calendrier, eh bien, à chaque fois, on est obligé d'être vigilant, non pas aux semaines, non pas aux mois, mais aux années, sur les promesses du président de la République sur le droit de mourir dans la dignité.
Mais en tout cas, actuellement, le texte est divisé en deux parties. Donc, le projet de loi sur l'aide à mourir, il est assez isolé. Il est désormais davantage exposé à l'opposition que lorsqu'il était accompagné du texte portant sur les soins palliatifs. Donc, dans ce contexte, est-ce que votre amendement, Élise Leboucher, en instaurant, entre guillemets, une facilité supplémentaire à disposer de sa mort, est-ce qu'il ne risque pas de diviser davantage encore l'Assemblée, comme c'est ce qui semble se dessiner au vu des réactions venant de la droite ?
C'est vrai que les réactions étaient assez vives et assez, assez fortes. Après, les réactions, elles viennent de parlementaires qui, de fait, sont déjà opposés au texte. De parlementaires qui disent si on bouge les équilibres, si on bouge les critères, moi, je ne le voterai pas. Mais en fait, ils le voteraient déjà pas. Donc déjà, ces personnes-là, elles ne sont pas de bonne foi et leur argument ne tient pas.
Il y a quand même un risque
des
gens...
Par contre, il y a des collègues députés qui, en effet, qui hésitent. Et c'est là où, moi, je dis que l'amendement que nous avons fait voter ne modifie pas les critères. Donc, du coup, il n'élargit pas le nombre de personnes qui auraient accès à l'aide à mourir.
Et ça, comment on peut en être sûr, ça ?
Parce qu'en fait, on n'a pas bougé les critères, on a bougé la partie de l'administration à la fin.
C'est-à-dire ?
Donc, la personne, elle est déjà rentrée dans le dispositif, elle est déjà rentrée dans le protocole de l'aide à mourir. Alors que si on modifie les critères, par exemple, on a déjà commencé les débats sur... Parce que dans un des critères, c'est un trajet d'au moins 18 ans. On a déjà eu un débat avant la pause, parce que c'est important qu'on ait ce débat-là, parce qu'on ne peut pas nier la situation, de rabaisser à 16 ans. Soit en parlant des mineurs émancipés, ou voilà. C'est une réalité. Là, typiquement, cet amendement, il n'est pas passé. Là, en effet, si cet amendement était passé, on diminuait l'âge, donc on bougeait un critère, donc on augmentait le nombre de personnes pouvant avoir accès à l'aide à mourir. Ce qui n'est pas le cas avec l'amendement que nous avons voté, qui modifie juste le choix de la personne pour l'administration du produit. C'est pour ça que, du coup, pour moi, c'est pas l'équilibre, il n'est pas modifié dans le texte avec l'amendement qu'on a voté avant la pause.
Alors, le député socialiste Jérôme Gadge s'est félicité du vote de l'amendement en commission et je le cite, « Nous avons remis de l'égalité entre les deux possibilités, suicide assisté et euthanasie. Oui. » Est-ce que ce n'est pas ce mot euthanasie qui peut poser problème ? Par exemple, Rémi Marchand, est-ce que c'est un terme que vous utilisez à la DMD, le mot euthanasie ?
C'est un terme que j'ai utilisé dans les propos qui précèdent la phrase que je suis en train de dire là. C'est une évidence qu'il faut arrêter de masquer les choses. Oui, on parle de la mort. Oui, on parle de suicide assisté. Oui, on parle d'euthanasie. Oui, on parle de libre choix et de soins palliatifs. Appelons les choses comme elles sont, arrêtons de déguiser les choses. Ça, c'est aux opposants qui font la une ridicule de certains journaux, encore une fois, qui font atteinte à la laïcité, qui n'osent pas utiliser les mots. Mais finalement, pour avoir une loi, parce que rappelons-le, la loi aujourd'hui, la loi Claeys-Leonetti sur la fin de vie, elle fonctionne mal, elle n'est pas adaptée à toutes les situations, et en plus de ça, elle est difficile à comprendre. C'est comme la rédaction des directives anticipées. Il faut que les choses elles soient simples à comprendre. On arrive à un moment de notre vie où finalement les choses ne sont pas évidentes. C'est vrai que je m'étale, que je suis un peu bavard, mais il faut faire les choses simplement. Il faut qu'elles soient claires, qu'elles soient encadrées, qu'elles protègent juridiquement les soignants. Ça, c'est quelque chose d'assez fondamental, évidemment, et qu'elle protège également, avant tout, le patient qui, finalement, là, on inverse un petit peu l'ordre des choses, c'est le patient qui est demandeur et c'est le soignant qui va appliquer un acte. Par contre, à aucun moment, on ira imposer à un soignant quelque chose. On se retrouvera pas dans des situations, enfin, c'est comme sur l'IVG, il y a un droit de conscience. Ce qui est important, c'est de se dire que, par exemple, ce qui s'était passé il y a quelques années au Bailleul, où vous aviez un gynéco qui ne souhaitait pas pratiquer un acte d'IVG, qui ne renvoyait pas vers un de ses confrères, il faut tout faire pour mettre en place un cadre qui fait que ces situations-là ne puissent pas exister, qui d'ailleurs était absolument illégal. Aujourd'hui, on parle de très peu de personnes qui vont bénéficier de cette loi. Par contre, ces très peu de personnes, elles ont besoin d'une loi. Et la pire insulte qu'on a, c'est celle d'attendre pendant des décennies, encore une fois, d'attendre soit qu'elle meure dans des souffrances qui sont absolument inadmissibles, ou qu'elle doit fuir à l'étranger en payant aujourd'hui 8 à 12 000 euros pour pouvoir fuir de leur pays, devoir fermer la porte une dernière fois de chez eux et s'organiser pour pouvoir fuir et mourir à l'étranger. Ça, c'est la réalité dans notre pays.
Alors, avec l'examen de la loi mi-mai, j'imagine que c'est un moment fatidique pour l'ADMD. C'est un peu l'aboutissement de tout votre combat, quelque part. Et si le texte ne passe pas, vous avez déjà prévu des actions?
Si le texte ne passe pas, on fera la même chose qu'on fait au quotidien. On était présent avec... Enfin, Élise Le Boucher était présente il y a quelques semaines à une réunion de l'ADMD dans le cadre de nos semaines de mobilisation. J'ai rencontré... et Jean-Carl Grelier il y a peu de temps, et Éric Martineau que j'ai eu au téléphone également récemment. Il est très clair que le travail de plaidoyer de la DMD, il ne s'arrêtera pas au moment où finalement il y ait un vote solennel qui soit en faveur ou en défaveur d'une aide qui va mourir. Il est très clair que de toute façon, le jour où on aura une loi, parce que je suis convaincu que ça arrivera, je ne sais pas quand, mais je suis convaincu que ça arrivera. On ne peut pas aujourd'hui en France être le vilain petit canard quand on voit en Suisse, en Espagne, au Portugal, en Espagne, où la religion est particulièrement présente, avec une application difficile de la loi. On peut se demander pourquoi et qui sont les obstacles aujourd'hui à ça. Mais il est évident qu'à la DMD, on sera toujours particulièrement mobilisé. Et mobilisé sur le fait qu'on ne peut pas opposer les soins palliatifs et l'aide active à mourir. C'est quelque chose de très clair. On parle de libre choix, sans rien enlever à personne. Et également de pouvoir informer sur ce qui existe déjà, notamment les directives anticipées. Nos réunions, elles sont ouvertes à tout le monde. On a une réunion tous les premiers lundis de chaque mois. La prochaine, c'est le 5 mai à 14h, Maison des associations. Que les personnes soient adhérentes ou pas à la DMD, on renseigne les personnes, on a une ligne d'écoute. Et cette question de l'écoute, elle est particulièrement importante parce que c'est de remettre au cœur l'usager du système de santé, les Françaises, les Français, qui, j'espère, je conclurai mon propos comme ça en disant, j'espère l'apprendre à personne. Tout le monde va mourir, mais certainement pas dans les mêmes conditions. Et ça, c'est la réalité de la loi aujourd'hui dans notre pays.
Et enfin, très rapidement, Élise Le Boucher, donc Rémi Marchand, se dit convaincu qu'il y aura une loi sur les aides à mourir un jour. Est-ce que vous êtes convaincu que ça pourrait être pour 2025? Est-ce que vous êtes confiante pour le vote mi-mai?
Confiante. Alors, depuis que je fais de la politique, j'ai appris à pas trop m'avancer. Je l'espère, en tout cas, parce que c'est le moment et que 80% des Françaises et des Français la veulent, cette loi. Et en effet, comme l'a dit Rémi, nos pays, nos voisins européens ont déjà passé le pas il y a longtemps. Donc il faut qu'on aille au bout de cette loi. Et moi, j'espère, oui, il faut que ce soit maintenant, parce que par contre, je crains que par contre, si ce n'est pas cette fois-ci, ça tarde un petit peu après, selon l'évolution politique qu'on prendra notre pays, quoi. Mais en tout cas, voilà, moi, je serai mobilisée pour l'avoir en 2025.
Merci beaucoup d'être venu à notre micro. Élise Le Boucher, députée LFI de la 4e circonscription de la Sarthe, co-rapporteur du projet de loi sur la fin de vie, ainsi que Rémi Marchand, délégué départemental de l'ADMD. Merci beaucoup.
L'invité de la rédaction avec Charlie Pless sur Radio Alpa.